Oui, bonjour, chers auditeurs. Yves Dalpé, psychologue ici. Je vous envoie cet épisode de Psychobalado à partir de l'île des Sœurs à Montréal, sous un ciel enfumé à cause des immenses feux de forêt que nous vivons ici, malheureusement. Alors aujourd'hui, en ce 30 juin 2023, je commence la lecture de mon livre L'infidélité n'est pas banale, qui a été publié chez Québecor en 2006. Sur la page couverture, on voit en sous-titre « Comment composer avec une crise conjugale ». Si je vais au verso du livre, pour avoir un résumé de mon livre, voici le texte. Vécu parfois comme un simple jeu de séduction, l'infidélité peut tourner au drame et détruire un couple ou même une famille. Pourtant, inutile de se le cacher, les relations extra-conjugales ont le potentiel de faire rêver. Elles invitent au fantasme, à la liberté, à l'évasion. Qui sont ceux qui osent défier la norme de la fidélité et pourquoi? Comment composer avec une crise conjugale engendrée par une infidélité? Que comprendre d'un adultère? Quelles sont les différences de libido entre les hommes et les femmes? Comment vivre une intimité conjugale vraie? Et dans quelles circonstances doit-on quitter son conjoint? Mettant à profit les connaissances théoriques sur le sujet et ses expériences cliniques, Yves Dalpé nous livre ici un savoir unique. Il fait le pari de concilier l'apport de la sexologie avec sa tendance à valoriser la libéralisation des mœurs et la psychologie qui est sensible à la capacité des individus à aimer de façon responsable et respectueuse. L'infidélité n'est pas banale, nous plonge au cœur de l'intimité du couple, au cœur de l'intimité de chaque individu. Maintenant, dans le bas de la page du verso du livre, on a un bref résumé de l'auteur. C'est écrit « Yves Dalpé est psychologue et sexologue clinicien au Québec ». Il détient un doctorat en sexologie du Institute of Advanced Study of Human Sexuality de San Francisco. Il est membre de l'Ordre des psychologues du Québec, de la Society for the Scientific Study of Sexuality et de l'American Group Psychotherapy Association. Il donne des conférences sur le couple et l'amour depuis plusieurs années. Aux éditions Québecor, il a publié « La puissance des amoureux de longue durée » en collaboration avec Joanne Côté. Maintenant, si on va, on commence au début, on peut lire que la dédicace du livre. Alors, à Joanne Côté, mon épouse chérie et à mes trois fils adorés, Steve, Nicolas et Vincent. Et j'aborde maintenant tout de go l'introduction du livre. Quand j'ai parlé du sujet de mon livre « L'infidélité » pour la première fois à un ami, il m'a posé cette question d'un air enjoué. Et puis, avons-nous le droit? Les relations extra-conjugales ont le potentiel de nous faire rêver énormément. En effet, elles nous amènent tout droit dans le monde merveilleux de l'imaginaire, du rêve, du fantasme, de la liberté, de l'évasion. Si on s'y laisse aller, on monte dans le char magique d'une fée qui nous sort de notre quotidien routinier et pesant pour nous griser. Le désir sexuel, c'est puissant. La pulsion de nouvel amour, encore plus. Est-ce normal d'avoir du désir pour d'autres personnes que notre conjoint? Ben, c'est plutôt le contraire qui serait anormal. La vie est bien faite, car nous nous attirons entre humains comme des aimants avec des charges plus ou moins fortes. Quand un homme circule en vélo sur une piste cyclable et qu'il y croise une jolie femme accroupie sur sa bicyclette, dégageant ainsi une poitrine généreuse de son décolleté, ça le rend heureux. L'attirance sexuelle donne du zeste à notre vie. Les rencontres fortuites de belles personnes séduisantes ensoleillent notre quotidien. L'ennui, c'est que nous avons deux pulsions contradictoires et simultanées. Nous aimerions avoir accès à de multiples corps désirables tout en vivant avec une personne qui nous aime assez pour se restreindre à notre propre personne. Chacun de nous doit résoudre ce dilemme. Si notre cycliste tient à son bonheur avec son épouse, mieux vaut sans doute qu'il regarde ses belles femmes passer, mais sans y toucher. En effet, l'infidélité n'est pas une affaire banale. Ce sujet nous plonge au cœur de l'intimité du couple et au cœur de l'intimité de chaque individu. Ce qui paraît au premier abord comme un simple jeu de séduction sans conséquence peut tourner au drame. Ce qui a commencé par un fantasme solitaire dans l'intimité la plus reculée d'un individu peut finalement détruire une famille. Nous avons peut-être tendance à banaliser l'infidélité comme si c'était devenu plus ou moins normal, voire avantageux. Si la tolérance à l'infidélité est souhaitable et même profitable pour une société globale, car elle contribue à vaincre l'étouffement des diverses restrictions de la vie et à fuir des situations désolantes, l'infidélité est néanmoins pénible la plupart du temps pour les proches et bien souvent pour les infidèles eux-mêmes. C'est un peu comme pour la violence dans les films de gangsters. Cela nous amuse jusqu'au jour où nous sommes personnellement touchés. Oui, l'infidélité peut faire mal. Ce n'est pas par hasard si l'infidélité est l'une des raisons majeures qui amène les couples en psychothérapie. Christian me téléphone en panique et désire un premier rendez-vous le plus tôt possible. À peine assis sur le divan, tout médecin qu'il soit, ses lèvres se crispent, puis tremblotent un peu et il éclate en sanglots. Il me raconte alors comment il craint de perdre son épouse bien-aimée qui vient de découvrir le pot aux roses. Et oui, il la trompait, elle l'a découvert et elle menace de le quitter. Il est en désarroi. Quant à Claude, un homme d'affaires heureux dans son travail, un autre de mes clients, ce n'est qu'après de nombreuses entrevues avec moi qu'il m'a avoué sa relation extra-conjugale dont il se sentait très coupable. Ambivalent, n'arrivant pas à choisir entre son épouse et son amante, il m'avait lancé un jour, déprimé et désespéré, le problème ne pourra se régler que par la mort de l'un de nous trois, moi-même, mon épouse ou mon amante. Élise, une jeune professionnelle dans la trentaine, une autre ex-cliente, c'est en pleurant à chaudes larmes qu'elle me révéla ses aventures extra-conjugales. Depuis 7 ans, elle trompait un mari dévoué qui l'aimait vraiment. Et comment décrire la colère incommensurable de cet homme qui, en plus d'apprendre l'infidélité hebdomadaire de son épouse, remontant à de nombreuses années, il découvrait qu'il n'était pas le père biologique de sa fille de 10 ans. Puis, cette autre cliente, une digne quinquagénaire, devenue furieuse alliée depuis que son mari lui avait transmis l'herpès après l'avoir trompée. J'ai soutenu des centaines de clients dans leur souffrance occasionnée par des relations extra-conjugales. Ces clients m'ont fait visiter le pays de l'infidélité en me faisant découvrir les mille et une facettes de sa géographie. En tant que psychologue clinicien, je suis continuellement confronté aux émotions et aux tourments reliés aux désirs extra-conjugaux vécus par mes clients. Je suis souvent très touché par ce qu'ils me racontent. Inutile de dire que je prends tout cela à cœur. J'utilise donc mes connaissances psychologiques et sexologiques ainsi que mon expérience clinique pour aider le mieux possible chaque personne à explorer le sens de ce qui lui arrive afin qu'elle prenne les meilleures décisions. On ne devient pas psychologue par hasard. Mes parents se sont séparés quand j'étais en bas âge, à une époque où les séparations étaient réprouvées socialement. J'ai passé mon enfance à espérer voir enfin mes parents revenir ensemble. Les difficultés conjugales revêtent donc pour moi un sens profond. Et parler d'infidélité, c'est parler automatiquement d'engagement conjugal. D'ailleurs, la famille au complet est en cause. Quand on aborde le sujet de l'infidélité, on pense n'aborder que les périphéries plus ou moins superficielles du désir sexuel, mais on se retrouve vite avec la notion de capacité d'aimer et ses conséquences familiales. Aujourd'hui, avec les multiples formes d'engagement amoureux qui ont remplacé le mariage monogame en Occident depuis une trentaine d'années, les couples se forment et se déforment à un rythme accéléré. La notion même de mariage est en mutation. J'aborde ce sujet dans le chapitre 10. L'influence sur les relations extra-conjugales se fera de plus en plus sentir. J'espère traiter ce thème de l'infidélité en évitant le piège du moralisme. La psychologie peut pathologiser des comportements marginaux ou dérangeants, tandis que la sexologie a souvent tendance à libéraliser les mêmes comportements en se donnant la mission de déculpabiliser les personnes. Il est vrai qu'on a tout avantage comme société à être permissif. En novembre 2004, j'assistais à un congrès de sexologues américains, The Society for the Scientific Study of Sexuality, au moment de la réélection du président Bush. Et c'était la consternation générale. Les sexologues congressistes étaient déprimés parce que les valeurs dépressives de la droite avaient des conséquences dramatiques sur la liberté d'expression aux États-Unis, sur la liberté sexuelle et sur la santé sexuelle des Américains. Les sexologues américains affirmaient qu'à cause de cette mentalité répressive, les Américains étaient maintenant 15 ans derrière les Européens en matière de droits sexuels et ils nous enviaient, nous les Canadiens, pour nos lois libérales en matière de comportement sexuel. Je le confesse franchement dès le début de ce livre, à une époque de ma vie, j'ai personnellement connu la liberté sexuelle même en vivant en couple. Et au début des années 1980, j'ai fait mon doctorat en sexologie en Californie dans une institution universitaire qui avait adopté une méthode d'enseignement didactique expérientielle alliant la théorie à l'expérimentation. J'y ai été confronté à toutes sortes de manifestations touchant la sexualité. Les étudiants étaient amenés non seulement à discuter entre eux des concepts sexologiques, mais aussi à confier leurs expériences sexuelles passées et présentes et à tenter des expériences comme d'aller à un club d'échangistes de San Francisco. En plus d'assister à de solides cours théoriques donnés par les professeurs invités, les plus grands noms de la sexologie mondiale de l'époque, j'ai visionné d'innombrables films projetés en classe sur tous les comportements sexuels imaginables. On nous faisait assister aussi à des démonstrations in vivo d'actes sexuels. J'y ai vu par exemple des couples faire l'amour devant la classe. J'y ai vu du sexe en groupe, des démonstrations de sadomasochisme, la démonstration in vivo du point G, des démonstrations de thérapie sexuelle faite par des professionnels se livrant à des relations sexuelles avec leurs clients dans le but de traiter leur dysfonction sexuelle, ce qui est illégal en réalité, etc. Il y avait aussi un côté intervention et j'ai fait un stage dans la clinique de sexologie de l'Institute San Francisco, supervisé par nul autre que le psychologue et sexologue Wardell Pomeroy, le principal co-auteur des rapports Kinsey, qui nous transmettait la culture de cette équipe de recherche de sexologie qui a marqué l'histoire de la sexologie mondiale au milieu du 20e siècle. La philosophie de base de mon école de sexologie de San Francisco était centrée sur une attitude d'acceptation inconditionnelle de toutes les formes d'expression de la sexualité qu'on cherchait à comprendre. Les individus étaient ainsi respectés au plus haut point, au lieu d'être jugés négativement. Et l'on s'indignait contre les gens perçus comme « judgmental », contredit en français par « moralisateur » ou « normatif ». Alors, ces individus perçus comme moralisateurs, dis-je, qui adhéraient aux valeurs traditionnelles de la société en ce qui concerne la sexualité. En fait, les fondateurs de cet établissement d'enseignement de la sexologie étaient motivés avant tout par la promotion du droit des individus au plaisir sexuel, par la défense des minorités sexuelles et des marginaux, et ils percevaient la fidélité plutôt négativement. Tout en étant reconnaissant à mon alma mater de m'avoir autant appris sur la sexualité, je serai tout de même plus nuancé par rapport à cette ouverture tout azimut qui ne tenait pas assez compte de la psychologie individuelle et conjugale, d'après moi. Même s'il est vrai qu'on gagne comme société à être permissif en matière de sexualité et à laisser aux individus le plus de nuances possibles dans la conduite de leur vie sexuelle, l'essentiel du bonheur individuel et relationnel s'explique quand même par les motivations psychologiques des individus. Dans nos sociétés maintenant permissives, les vraies contraintes sexuelles viennent surtout de l'intérieur de l'individu, suscitées par la menace de l'intimité. Je consacre un chapitre à ce sujet. Et le chapitre sur les troubles de la personnalité illustrera comment je perçois la connexion entre le vécu sexuel et le fonctionnement psychologique d'un individu. Parfois, j'ai l'impression que la société glisse trop vite vers le modèle que j'ai connu à San Francisco, modèle qui valorise naïvement la liberté sexuelle aux dépens des liens conjugaux et familiaux, comme si le plaisir sexuel avait préséance sur l'affection d'un autre. On parlait à San Francisco de sexualité récréative et de style de vie alternatif, en donnant une valeur à la sexualité dissociée du lien intime. Cette attitude peut mener à la banalisation de la sexualité et à beaucoup de souffrance. Elle peut parfois être utile, comme dans des étapes de transition de vie, mais d'après moi, ce sont souvent les carencés affectifs et les personnes qui souffrent de psychopathologie qui en sont le plus attirées. Tout au long de ce livre, j'essaie donc de placer les désirs sexuels dans le cadre de leur signification affective et relationnelle. Le danger qui me guette est sans doute de remplacer la notion de péché par celle de psychopathologie, mais je cherche avant tout la vérité et non la promotion de certaines valeurs morales. Mon but est d'explorer l'univers complexe de l'infidélité et non pas de montrer du doigt des personnes vues comme moralement fautives. Mais je veux tout de même parler d'infidélité sans complaisance, à partir de mon expérience professionnelle et avec le plus d'objectivité scientifique possible. Le premier objectif de ce livre est d'éclairer les personnes en traversant une crise conjugale due à l'infidélité, ainsi que les professionnels de la relation d'aide. On peut sortir grandi d'une telle crise à certaines conditions. C'est ce que nous allons explorer ensemble. Alors, en terminant, je pourrais peut-être donner un aperçu de, du contenu du livre en lisant le sommaire. Alors, chapitre 1, est-ce que tout le monde le fait? Chapitre 2, une famille ébranlée. Chapitre 3, la gestion de la crise. Chapitre 4, l'évaluation de l'infidélité. Chapitre 5, la cruelle différence de libido. Chapitre 6, la sexualité excessive déconnectée de l'amour. Chapitre 7, la menaçante intimité conjugale. Chapitre 8, la grande question, deux points, partir ou s'investir, point d'interrogation. Chapitre 9, les styles de personnalité et l'infidélité. Et finalement, chapitre 10, une percée historique, deux points, la maîtrise de notre destin conjugal. Je pourrais peut-être aussi terminer cet épisode de Psycho Balado en lisant la page des remerciements. Mes premiers remerciements s'adressent à mon épouse, Joanne Côté, psychologue. J'ai tellement discuté avec elle de l'infidélité au cours des années qu'elle aurait pu être co-auteur de ce livre. De plus, je dois mentionner l'impact de tous mes professeurs de San Francisco sous la direction de Ted McIlvenaugh et Feu Wardell Pomeroy, psychologue, co-auteur des rapports Kinsey sur le comportement sexuel, qui m'ont formé à la sexologie. J'ai également beaucoup de reconnaissance pour mes superviseurs passés en psychologie clinique, dont Régis Langelier, psychologue en pratique privée aux États-Unis, et surtout le Dr François Desrosiers, psychologue, ex-directeur de l'École de psychologie de l'Université Laval, qui m'a supervisé durant de nombreuses années au cours de ma pratique professionnelle comme psychologue et qui m'a profondément influencé. Je remercie aussi la psychologue américaine et auteure Janice Spring, avec qui j'ai suivi une formation spécifique sur l'infidélité. Par ailleurs, j'ai beaucoup apprécié les commentaires de ceux qui ont pris la peine de lire le premier jet de mon manuscrit. Outre mon épouse qui m'a donné du vent dans les voiles, mon ami Jean-Louis Drolet, psychologue et professeur à l'Université Laval, a révisé minutieusement ma première version et mérite une reconnaissance particulière. Un gros merci également à mon amie Catherine Morneau, conseillère d'orientation en pratique privée, qui m'a soumis des suggestions de dernière heure tout en me communiquant son enthousiasme pour le contenu de ce livre. Finalement, je remercie chaleureusement mon ami Denis Pelletier, éditeur, pour ses conseils, ainsi que mon éditeur, M. Jacques Simard, pour avoir cru autant à ce livre. Alors, c'est...